Bonjour à tous. On a entamé une série de prédications sur le livre de Daniel. Pour les ados qui seraient avec nous, il y a une fiche dédiée pour eux, pour les aider à suivre la prédication qui se trouve vers la table là-bas. Donc vous pouvez vous lever quand vous, maintenant, ça peut être pratique, aller chercher cette fiche, c'est le qu'est-ce qu'il a dit, avec des questions super intéressantes à la fin. Si vous n'avez pas de Bible et que vous voulez suivre la lecture, il y a aussi des Bibles qui sont sur la table normalement. S'il n'y en a plus, vous pouvez aller voir à l'accueil. Et si vous voulez vous lever juste pour vous dégourdir 2 secondes des jambes, vous n'hésitez pas non plus. Alors, quand François disait qu'il y avait un peu moins de monde devant, je me suis dit, ah ouais, on dirait ma chevelure, ça représente une couronne, vous voyez? Donc, vous êtes ma couronne. Les amis. Voilà. Continuons ensemble l'étude du livre de Daniel et que j'ai intitulé Vivre dans un monde hostile. Pour nous aider à vivre dans ce monde hostile. J'ai un frère, quand il s'est converti, pas mon frère de sang, mais un frère en Christ, quand il s'est converti, il me disait, quand je me suis converti, plus rien pouvait m'atteindre. J'étais invincible, un super-héros. Dieu est mon père, rien ne peut m'arriver. Avec un côté assez arrogant dans sa démarche. Il n'est pas faux de dire que Dieu est invincible, mais un côté assez arrogant dans sa formulation, dans sa relation avec les autres. Daniel, comment il a agi? Comment a-t-il agi dans les chapitres qu'on a vus au chapitre 1, le début du chapitre 2, et comment il va agir maintenant? C'est ce que je vous propose de regarder ensemble. Nous nous trouvons dans l'Ancien Testament. Si vous aimez un peu les dates, on est en moins 603 avant Jésus-Christ. Le peuple de Juda est ballotté entre trois grandes puissances, Babylone, la Syrie et l'Égypte. Et en fait, depuis 25 ans, ils sont sous domination assyrienne, puis égyptienne et maintenant babylonienne. Leur roi du peuple de Juda est mort en 609. Ils deviennent à ce moment-là sous la domination égyptienne. Babylone n'est pas content, veut prendre une revanche, déporte une partie des élites, des plus intelligents en tout cas, ceux qui paraissent intelligents. Je ne dis pas que Daniel n'est pas intelligent, mais je ne vais pas mettre de jugement de valeur sur l'intelligence. En tout cas, le roi de Babylone déporte les élites de Juda, dont Daniel et ses compagnons. Ça, c'est pour le contexte historique. Donc, voyez un peu Jérusalem, hein, j'ai un coup de droit en jaune. Il est quand même sous pression par ces trois grandes puissances. Et là, dans notre contexte, on a vu que la semaine dernière, le roi de Babylone, avec un joli nom, Nabucodonosor, a fait un rêve. J'ai fait un rêve, dit-il, mais il est tourmenté, il est troublé, et le sommeil le quitte. Il demande à toutes les personnes autour de lui les plus compétentes, les mages, les envoûteurs, les sorciers et les gens de sa tribu, de son peuple, les Chaldéens. Et il leur demande, exposez-moi le rêve que j'ai fait et je vous en donnerai l'interprétation. Et bien sûr, ces gens-là lui disent, mais personne, c'est pas possible. Il n'y a personne sur Terre qui puisse le faire. C'est pourquoi aucun roi, si grand et si puissant soit-il, ne peut demander une chose pareille aux mages, aux envoûteurs et aux Chaldéens. Et Daniel, qu'est-ce qu'il avait fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a demandé un délai pour aller consulter Dieu. Alors que le roi disait, non, vous êtes un peu des bons à rien, vous les sages, je ne vous donne pas de délai. Daniel demande un délai auquel le roi lui accorde. Et donc on avait une première intrigue. Est-ce que Daniel va mourir? Enfin, moi, je me suis posé cette question, en tout cas. Est-ce que Daniel est parmi les sages, est-ce qu'il va mourir? Et je vous propose de lire la suite. On a la page 820 sur les Bibles qui étaient à l'entrée. On va lire Daniel 2, des versets 25 à 46, 49, pardon. « Arioch, qui est le chef des gardes, conduisit vite Daniel devant le roi et lui dit « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui donnera l'interprétation au roi. » Le roi demanda à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son interprétation ?» Daniel répondit devant le roi « Le mystère que le roi demande, ce ne sont pas les sages, les envoûteurs, les mages et les devins qui sont capables de le dire au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères, qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve, les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, au roi, il t'est venu des pensées concernant ce qui arrivera dans la suite. Et le révélateur des mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'interprétation soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans l'action d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les emporta et l'on n'en retrouva aucune trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Oups. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il t'a livré les hommes, les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, où qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et casse tout, il pulvérisera et il brisera tout, comme le frère brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, je vous laisse imaginer un peu la scène, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera pour toujours. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans l'action d'aucune main. Et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile et l'or. Un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est sûr et son interprétation est digne de foi. Alors, le roi Nabucodonosor tomba face contre terre, prosterné devant Daniel. Et il leur donna de lui présenter des offrandes et des sacrifices d'odeurs agréables. Le roi dit à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et le révélateur des mystères. Puisque tu as pu révéler ces mystères, » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le nomma chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel était à la cour du roi. Notre lecture s'achève et je vous invite à prier ensemble. Notre bon Père Céleste, nous sommes encore devant ta parole. Nous voulons qu'elle nourrisse nos cœurs, nous voulons qu'elle nous transforme à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, que tu nous parles maintenant, que tu nous révèles à nous ce qui est bon pour nous aujourd'hui et que tu nous permettes de l'accomplir. Je te prie par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Après cette lecture, on peut se demander, quelle est la prochaine intrigue ? Non ? Moi, c'est ce que je me posais. Quelle est la prochaine intrigue ? Comment le roi va réagir ? Daniel lui révèle son rêve, l'interprète. Comment il va le réagir ? Ce que je vous propose de regarder ensemble maintenant, c'est d'abord regarder les acteurs principaux. Donc on a le roi Nabucodonosor, nous avons Dieu, qui est présent, et Daniel. Et ensuite, on regardera le rêve et son interprétation. Voilà ce que je vous propose pour ce matin. Qui est Nabucodonosor ? Autre le nom très sympathique, Nabucodonosor est roi de Babylone, un royaume très prospère. Et vous connaissez sûrement les jardins suspendus qui faisaient partie des sept merveilles du monde antique. Et sous Nabucodonosor, l'empire de Babylone, c'est vraiment le moment où il était le plus prospère, le plus grand, le plus fort. Le roi, c'est le roi du monde connu. C'est le roi du monde connu. Il domine sur tout. Son dieu n'est pas l'Éternel, c'est Marduk, le roi des dieux. Pour Nabucodonosor, Marduk, c'est le roi le plus fort. Pourquoi ? Et pourquoi il est plus fort que l'Éternel ? Parce qu'il a réussi à soumettre le peuple de Juda, qui a pour Dieu l'Éternel. Donc son roi est le plus fort pour Nabucodonosor. Et Daniel reconnaît en Nabucodonosor quelqu'un de grand, versets 37 et 38. « Tu es le roi des rois, car le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il t'a livré les hommes, les animaux sauvages, les oiseaux du ciel qui y habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. » C'est Daniel qui le dit. Mais en réalité, malgré qu'il soit fort, il reste le serviteur de Dieu. Nabucodonosor a reçu du Dieu des cieux, la puissance et la gloire dont lui a la charge. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce refrain de dominer sur les oiseaux du ciel. Il y a une référence là à Genèse. Dieu confie l'intendance aux êtres humains et la création. Et on a cet aspect qui revient. Dans le prophète Jérémie, contemporain, le prophète Jérémie, en fait, lui, il est resté en Juda. Il est resté tout le temps. Donc, ça nous dit que c'était plutôt un pauvre. Daniel est parti en déportation. Jérémie, qui est resté sur place, reste prophète. Et c'est ce qu'on a le livre de Jérémie. Il nous dit que il parle de Juda, de Nabucodonosor. « Maintenant, je te livre tout ce pays entre les mains de Nabucodonosor, roi de Babylone. » Ce qui est important, c'est « mon serviteur. » Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Nabucodonosor est décrit comme la tête d'or. Mais c'est le Dieu des cieux, celui qui révèle les mystères, qui en a décidé ainsi. Et tout doucement, on découle vers comment est décrit Dieu dans ce passage. On voit que Dieu, c'est celui qui révèle les mystères. Parce que même tous les sages, tous les savants, toutes les personnes à la cour du roi permettant de révéler ce rêve n'ont pas pu le faire. Seul Dieu qui révèle les mystères peut le faire. On voit qu'il est au final au-dessus de Marduk. On voit que Dieu utilise le roi de Babylone pour, d'une part, juger son peuple à cause de sa désobéissance, et en même temps, il utilise le roi de Babylone pour se révéler au monde à travers l'histoire. Dieu utilise Daniel pour interpréter le rêve de Nabucodonosor. Dieu domine, Dieu contrôle, Dieu gère la situation. Dieu n'est pas dépassé, on le sent très serein dans les descriptions qu'on a faites dans ce texte. Daniel. On avait vu la semaine dernière que c'était un sage, parmi les sages. Il devait mourir, comme les autres. Mais dans son comportement, dans ce texte, on voit qu'il ne cherche pas sa gloire. Quand Arioc, le chef des gardes, arrive près du roi, il dit « Oh, j'ai trouvé quelqu'un qui peut te révéler. » C'est un peu audacieux, parce que c'est quand même Daniel qui allait voir Arioc. Ce n'est pas lui qui a trouvé Daniel, c'est Daniel qui allait voir Arioc. Donc déjà, bon. Mais et Daniel dit rien. Il ne reprend pas le chef des gardes. Il ne cherche pas sa gloire. Quand il révèle le mystère, le rêve, il ne dit jamais « c'est moi », mais il rappelle toujours que c'est Dieu qui révèle. « Moi, je ne suis pas capable de te le révéler. » Versets 27 et 30. On voit que c'est un simple serviteur. Et puis, il ne cherche pas à enfoncer les autres. Il dit « les sages ne peuvent pas te le révéler. Les... Moi non plus. Seul Dieu peut te le révéler. Je ne suis pas meilleur que les autres sages. C'est Dieu qui est le plus fort. » Et enfin, et en même temps, plutôt, il assume ses convictions. Il n'écrase personne. Il ne sent pas supérieur. On voit à la fin qu'il se connaît lui-même. Il demande que ses compagnons de déportation règnent avec lui, dominent sur le territoire de Babylone. Vous attendez maintenant au rêve, à l'interprétation. Vous aimez bien tout ce qui est un peu croustillant comme ça, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Quel est le rêve de Daniel ? Enfin, du roi que Daniel va interpréter et répéter. On voit que le rêve est constitué de deux parties. D'abord, on a une description d'une statue. Je viens après. Ensuite, on a l'interprétation du verset 21 à 33, pardon, si vous voulez. En fait, c'est pour bien remplir les fiches. Donc, on a la description d'une statue, des versets 21 à 33, et des versets 34 à 35, on a l'intervention d'une petite pierre qui détruit tout. Voilà à quoi représentait cette statue. Elle est grande, immense, verset 31, une splendeur extraordinaire, et en même temps, elle paraît terrifiante. Elle paraît aussi un peu bizarre, quand même. On voit qu'elle est découpée en bandes horizontales. On a la tête en or, sa poitrine et ses bras qui sont en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes et ses pieds qui sont en fer mêlé d'argile. Quand on observe cette statue, on regarde facilement de haut en bas. Mais quand on regarde de haut en bas, c'est notre regard naturel, hein, normalement on regarde la personne de haut en bas, quand on regarde cette statue, on voit qu'elle est, en fait, les métaux les plus précieux sont en haut, et ce qui est moins précieux en bas. On a une dévalorisation des métaux, de la structure. Et le commentateur Daniel Arnold, un commentateur, pas le prophète, il écrit dans son commentaire que les métaux suivent une régression au niveau du poids. C'est là que ça devient un peu plus technique. La densité de l'or est de 19,3 grammes au centimètre carré, alors que l'argile est de 2,6 grammes au centimètre cube, pas au centimètre carré. Pour ceux qui aiment les chiffres, on voit qu'il y a une dévalorisation des métaux. La densité est plus forte en haut qu'en bas. Mais en revanche, on a une progression au niveau de la dureté. On a une épée souvent en fer et pas en or, c'est trop malléable. Et on l'a au verset 40, qui est solide. On a un quatrième royaume qui sera solide comme le fer. Il pulvérisera tout et rompt tout, comme le fer brise tout. Et donc, quand on regarde cette statue, on a une impression à la fois de quelque chose de très fort et à la fois quelque chose de très fragile. Et plus on la regarde, plus on descend notre regard, plus on la trouve fragile. Elle paraît moins spectaculaire qu'au départ. Un rien peut la détruire, un rien peut la basculer, un rien peut la garder, la conserver. Et ça donne cette impression que c'est un peu de l'illusion. C'est de l'illusion. Jusque-là, verset 31, ah, vous avez retenu, verset 21 à 33, on avait la description de la statue, et 34 à 35, on a cette petite pierre qui arrive. La scène va s'animer. Une pierre se détache de la montagne, sans le secours d'aucune main. Elle frappe les pieds. Et là, la statue ne s'effondre pas simplement sur elle-même. Elle est complètement pulvérisée. Complètement pulvérisée. Il ne reste plus rien du tout. Tout s'en va avec le vent. Tout part. Tout est détruit. Et cette pierre qui était là grandit et devient une grande montagne. Elle remplit toute la terre. À quoi ça vous fait penser, cette pierre? À quel moment on utilisait des pierres? Pour lapider, ouais, pour tuer, pour exécuter. La lapidation est un jugement. Cette pierre qui se détache, qui vient pulvériser la statue, nous montre le jugement de Dieu. Mais là, cette pierre n'est pas jetée, comme on peut lire dans le Deutéronome, par des humains, mais par Dieu lui-même. Et une pierre suffit. Une pierre suffit. Ce n'est pas plein, une accumulation de pierres. C'est une pierre qui suffit. Le jugement de Dieu s'abat sur cette statue. Je continue cette description. Vous attendez toujours la suite, hein ? On va voir si elle peut revenir un jour. Mais si on regarde cette statue, j'ai dit que c'était une montagne inversée. La montagne, elle est stable, impossible de la renverser. C'est une masse beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus grande. Alors que la statue, qui est décrite de haut en bas, paraît stable, avec les matériaux nobles au-dessus, et plus on descend, plus elle est faible. Et on voit que faire tenir un triangle sur la pointe, c'est un peu compliqué, alors que la montagne, elle est bien enracinée, bien à plat, les pieds au sol, si je peux dire. Et en fait, on voit au nouveau cette faiblesse de la statue. En plus, la montagne est quelque chose d'assez important pour les habitants de l'époque. C'est un lieu où on peut résider, c'est là où on va trouver Dieu, c'est là où on va voir Dieu, c'est là où on peut se réfugier. La statue, à part provoquer des regards vers elle, ne fait rien de plus. Quelle est l'interprétation de cette statue? Du rêve? Le rêve est plus grand que cette statue. On voit que ces différentes bandes sont, je reprends ce que dit Daniel, des royaumes, des empires qui vont se succéder. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de l'empire babylonien qui gouverne le monde, on parle d'un vrai empire qui gouverne le monde. On ne parle pas des Arvernes et des Burgondes qui gouvernent un petit territoire de 10 mètres carrés. C'est vraiment des rois du monde. Il n'y a personne aussi grand que lui. Voilà, c'est tout. Donc, on parle des empires qui se succèdent, c'est cette vision-là qu'il faut avoir en tête, c'est cette idée-là. Donc, le premier royaume, c'est Babylone. Daniel le dit, c'est la tête de la statue. Bon, peut-être que pour Nabucodonosor, il s'est dit, ouais, j'étais content, j'étais toute la statue entière. Au final, je suis qu'une tête. Bon, ça, c'est, on peut imaginer. Hein. Mais en tout cas, Nabucodonosor, la Babylone, pas Nabucodonosor, parce qu'après lui va mourir, quelqu'un d'autre va succéder à sa place. C'est le premier royaume. Deuxième royaume viendra, et on voit qu'il est décrit assez succinctement, ainsi que le troisième. On voit qu'il est un peu moins, celui-ci est moindre, on y voit verset 39. Le troisième, il sera puissant. On voit qu'il domine sur toute la terre aussi. Et on a une longue description sur le quatrième royaume, avec une description qui est assez compliquée à imaginer, beaucoup plus délicate, qui est caractérisée à la fois par la force et la faiblesse, qui est marquée par des échecs, qui essaie d'unir ce qui n'est pas unissable, qu'on ne peut pas unir, essaie d'unir le fer avec l'argile. Ce dernier royaume ne construit rien du tout. Et là, vous dites, mais quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive? Un des trucs un peu croustillants. Mais nous, on est où là-dedans? Est-ce qu'on peut les identifier, ces royaumes? Je veux dire, attendez encore 2 minutes, j'y viens. Je veux juste inviter à la prudence dans les interprétations de textes prophétiques. Et aussi, des fois, dans notre manière, en même temps, de lire la Bible, c'est juste une parenthèse, mais qui me paraît important de rappeler maintenant. Souvent, les interprétations surinterprètent les détails de la statue. On fait dire plus à ce qu'elle dit. Et même, on donne plus d'explications que de ce que Daniel peut en donner. La prudence. Les amis, c'est la prudence. La prophétie emploie des images, des comparaisons, comme on peut lire des paraboles du Nouveau Testament, qui sont connues des personnes de l'époque. Ils emploient des expressions connues de tous. La Bible, en même temps, n'est pas un livre codé, c'est pour ça que je reviens aussi à ça, la Bible n'est pas un livre codé qu'il faudrait décoder, chercher, gratter, faire des trucs, voilà, surinterpréter. La Bible est claire, c'est qu'on vit dans un monde qui est, je rappelle qu'on était en -603, hein. C'est un peu loin de nous quand même. Donc il faut se remettre dans, faut s'immerger dans le contexte, dans l'aspect religieux, l'aspect du relation à Dieu, l'aspect de la relation au territoire. Voilà, il y a tout un contexte à se rappeler. Daniel 1 à 7, aussi s'étudie dans une structure qui, du chapitre 2, se répond avec le chapitre 7 aussi. Donc, quand on étudie ça, il faut aussi imbriquer tout ça. Ok. Vous êtes toujours là? Ça va? Toujours envie de connaître la suite? Beaucoup de commentateurs, dont Sylvain Romeroski, dans l'introduction, enfin dans ses notes de la Bible à la Summer, ça, ils accordent pour dire que le premier royaume, Babylone, la tête, le deuxième royaume, l'Empire perse, ou Médo-Perse. Donc Médo-Perse, c'est... Bon, je reviens. Le troisième royaume, parce que vous lisez en même temps, donc si vous n'allez pas m'écouter, c'est le royaume grec, l'Empire grec, et le quatrième, l'Empire romain. L'Empire perse, c'est Xerxès, Artaxerxès, c'est Livre d'Esther, c'est le film 300, ouais, c'est tout ça. L'Empire grec, c'est Alexandre le Grand, c'est une grande conquête éclair, qui s'arrête assez rapidement et qui divise son royaume avec ses 4 généraux. Et puis le quatrième empire, c'est l'Empire romain. Et c'est là, en fait, la discussion auprès des sages, des commentateurs, des experts sur le livre de Daniel d'aujourd'hui. C'est à qui il correspond l'Empire romain, et en tout cas, ou alors l'Empire plus ce qui reste aujourd'hui, le plus récent, le monde d'aujourd'hui. Les détails sont assez complexes, en fait, pour savoir est-ce que nous sommes encore dans ce quatrième empire ou pas? Les détails sont assez complexes et font appel à des notions théologiques assez variées. Et je ne voudrais pas rentrer dedans. Je voudrais juste avancer et vous proposer certaines interprétations et en tout cas ce sur quoi on peut se fonder vraiment. On voit que cette pierre, au verset 44 et 45, c'est le royaume de Dieu. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que cette pierre, c'est le royaume de Dieu qui arrive. Et qu'il s'agit du royaume le plus important. Celui qui incorpore et met fin à tous les autres royaumes. La petite pierre, c'est bien le Christ. Ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. Et à la fin de cette histoire, Dieu triomphera. Verset 44. Le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à un autre peuple. Il écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera pour toujours. Celui qui révèle les mystères triomphera. Ce n'est pas Marduk le plus fort. Celui qui révèle les mystères triomphera. C'est bien le Dieu des Judéens, l'Éternel, celui qui est pour toujours et depuis toujours. Celui qui a utilisé Nabucodonosor pour juger son peuple. C'est ce grand Dieu qui triomphe. Et en tant que chrétien aujourd'hui, c'est notre Dieu qui triomphe. C'est notre Dieu qui triomphe. Mais pour nous qui sommes assez loin après Daniel et après la première venue de Jésus sur terre, est-ce que vous êtes un peu sur votre faim et vous voulez que j'affine un peu? C'est pour ça que j'affine un peu. Est-ce que cette pierre faisait référence à la première venue de Christ, par sa naissance, son incarnation, ou est-ce qu'il fait référence à sa seconde venue pour juger, qui reviendra pour juger le monde? En fait, la difficulté est là dans ce texte. Si cette pierre fait référence à la première venue de Jésus, alors le royaume qui progresse est bien identifié à l'Église, sa nature est spirituelle et sa croissance progresse, et on peut reprendre les paraboles de Matthieu 13. Donc la graine de moutarde, le champ avec le blé livré. On avait fait une série l'an dernier là-dessus. Si cette pierre fait référence à sa deuxième venue, alors on voit que la venue de ce royaume arrive de manière soudaine et totale. Cette pierre détruira de manière immédiate et définitivement les autres royaumes pour la remplacer. Mon avis personnel, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est que le royaume de Dieu, il fait référence au jugement de la deuxième venue de Christ. Certes, le royaume de Dieu est déjà présent par l'Esprit en Christ qui est venu l'inaugurer et qui est présent maintenant en cœur du croyant et que ça progresse à l'image de Matthieu 13. Mais il me semble que l'image donnée dans Daniel ne fait pas référence à cette forme du venu du royaume, mais l'instauration complète et définitive du royaume qui sera un royaume physique avec des corps glorieux, avec un retour du Christ pour juger, qui va détruire tout. On a des références dans les quatre royaumes à des royaumes terrestres, et il me semble logique, je m'appuie sur des commentateurs, hein, pour dire que le quatrième royaume, ce serait étrange qu'il ne serait pas aussi de nature physique établie. On parle d'un royaume qui détruit tout, et aujourd'hui on voit toujours bien que le mal est toujours là, que le royaume de Dieu n'est pas pleinement là, qu'il n'est pas entièrement posé. Mais, dans tous les cas, c'est quoi la conclusion ? Dieu triomphe. Dieu triomphe. Son royaume de Dieu va, le royaume, qu'il a déjà démarré ou qu'il arrivera pleinement terrestrement, il arrive. Dieu triomphe. Ça veut dire quoi ? Qu'il est encore possible de s'approcher de Dieu. Il est encore possible de s'approcher de Dieu aujourd'hui, de venir à lui, d'entrer dans son royaume. Les conséquences, c'est que ça nous invite à renoncer à notre royaume, à ma vie sans lui. C'est ce qu'on voit dans la préparation au baptême, de désirer les choses de Dieu, d'abandonner nos désirs, que Dieu change nos désirs. Et Dieu nous donne encore cet intervalle de temps pour nous approcher de lui. Parce que c'est lui le grand Dieu, c'est lui qui triomphe. Ce n'est pas nous. Dieu permet des fois des choses. Il laisse Nabucodonosor, il l'a utilisé pour juger son peuple. Il n'a pas abandonné son peuple. Les Judéens sont déportés en Babylone, ils n'ont plus le temple, ils n'ont plus les sacrifices. Ça pourrait être vu comme la fin de Dieu. Mais pas du tout. Daniel est confiant. Dieu est souverain. Il l'emporte sur le mal humain et intervient ou interviendra. Et finalement, nous pouvons attendre avec assurance et impatience le plein établissement de son royaume. Ce texte pouvait paraître simple au départ, mais au final est plus dense, peut-être, que je n'y avais pensé. Je voudrais vous laisser avec deux applications, deux pistes de réflexion. Le premier, c'est on peut prendre modèle sur Daniel. Et la deuxième piste, c'est nous rappeler que Dieu gère. Daniel nous rappelle sa vie en période d'oppression, dans un monde hostile. Et Daniel refuse d'être une star, mais il invite Dieu à être la star. Ce n'est pas Daniel la star de cette histoire, c'est Dieu. C'est Dieu qui révèle et pas Daniel. Daniel nous montre aussi comment on peut tenir ferme dans un monde difficile, hostile, avec une foi enracinée. Il a confiance en Dieu, avec une foi objective, que je rappelle aussi pas mal de fois au parcours, aux préparations au baptême. On voit que Daniel se laisse transformer aussi, en tout cas toucher où le monde dans lequel il vit impacte sa vie. Je ne suis pas sûr que Daniel était très content d'apprendre la langue des Chaldéens. Mais en fait, comme il parle le Chaldéen, il peut parler avec le roi et lui donner une interprétation, et du coup révéler au monde ce qui va se passer. Dieu utilise ce que vous vivez dans votre monde. Et pour les petits curieux, les petits trucs croustillants, en fait, à partir du chapitre 2, verset 4, jusqu'au chapitre 7, le texte est en araméen. La langue académique ou la langue parlée par tout le monde. Et ça nous montre que Dieu parle, il veut parler à tout le monde. Et Daniel s'est mis à ce service. Sous la pression, Daniel reste ferme. Daniel reste ferme. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu gère. Il y a plein de renversements dans ce texte. On s'attend à Nabucodonosor, le roi des rois, le roi de grand Dieu. Et au final, on voit que ce n'est pas si un grand Dieu que ça. Ou le plus fort. Il est fort, mais pas le plus fort. C'est l'Éternel qui est le plus fort. C'est lui qui révèle les dirigeants du monde. Ils sont sous le contrôle de Dieu. Et quand il le veut, il peut leur faire reconnaître. L'histoire est sous le contrôle. Nos inquiétudes sont sous le contrôle. Pas le nôtre, celui de Dieu. Et en plus, la venue du règne est certaine. Dieu triomphera de façon magistrale. Dieu triomphera de façon magistrale. Nous avons résolu une première intrigue. Daniel. Daniel n'est pas mort. Première intrigue. Mais on n'a toujours pas résolu la deuxième intrigue. Que va faire le roi de cette prophétie? Ça sera la prochaine fois. En attendant, je vous invite à chanter ensemble Notre Dieu règne.